je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours, du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel et aujourd'hui en direct. Et on a le plaisir de recevoir Epania Augusta. On va parler avec elle pendant une heure à la fois du Cameroun, de son organisation politique et de la dynamique unitaire panafricaine qui il y a déjà eu pas mal de congrès, hein, donc il y en a eu un récemment du 24 au 28 octobre et on va parler de tout ça pendant une heure. Mais avant, je vais te demander de te présenter.
Oui, d'accord. Donc moi je suis Augusta Epania, comme ça vient d'être dit. Je suis une vieille militante, tout court.
Oh, ça va quand même.
Ça fait longtemps, ça fait 40, 50 ans que je milite, donc ça fait beaucoup. J'ai commencé, j'avais 18 ans, j'en ai 68. Le calcul
donc voilà,
fait,
voilà.
Et donc je suis militante politique, bien sûr, militante syndicaliste également, associative aussi. Et je suis investie depuis aussi longtemps pour l'Afrique. Donc moi je suis d'origine camerounaise et investi très jeune dans cette cause d'une véritable libération du Cameroun, puisque en fait malheureusement la lutte qui a été menée avec beaucoup de ténacité par l'Union des populations du Cameroun, donc qui était le mouvement de libération créé en 1948, qui a été contraint et forcé de faire la lutte armée parce que suite à toutes les luttes pacifiques et toutes les réclamations tout à fait légitimes qui pouvaient être faites par les militants à l'époque, ça a été une fin de non-recevoir. Et ce qui a été, après de multiples répressions, ce qui a été vraiment le passage à la lutte armée, c'est la répression d'une manifestation en mai 55, le 25 mai 55, où il y a eu plus de 5000 morts.
Ah
donc,
ouais.
Suite à ça, l'UPC qui menait sa lutte donc, depuis pas loin d'une dizaine d'années, de façon tout à fait pacifique et réclamer l'indépendance du Cameroun, parce que en fait le Cameroun n'était pas à proprement parler, du point de vue des textes, une colonie, était sous tutelle. Donc sous tutelle des Nations Unies, à l'époque c'était la Société des Nations, l'enceinte de l'ONU, et qui a donné la tutelle à la France et à la Grande-Bretagne, puisque le Cameroun a été dépecé et partagé entre à 80% pour enfin sous la
la tutelle française.
Voilà, la tutelle française et à 20% la Grande-Bretagne. Et donc du coup normalement ces deux tuteurs entre guillemets étaient censés mener le pays à l'indépendance. Mais il n'en a rien été. Et malgré toutes les réclamations, faut savoir que l'un des fondateurs de l'Union des populations du Cameroun, Roubanou Niobé, a été 3 fois aux Nations Unies pour plaider la cause du Cameroun en disant, écoutez, vous avez donné la tutelle à la France, mais vous avez quand même un droit de regard et on vous demande de regarder, d'examiner ce qui se fait. Et ce qui se fait ne correspond pas aux engagements qui étaient pris. Donc, du coup, bon, malgré, évidemment... Donc, et surtout à l'époque, dans les années 50, aller 3 fois aux Nations Unies en partant du Cameroun et avec les deniers cotisés par les populations. Donc, vraiment, les petits sous que
au niveau
du peuple,
donner,
chacun pouvait donner, ont servi à payer le billet d'avion de Ruben Oumniobé. Et ça a été une fin de recevoir pour tout. Hein. Donc, et du coup, c'est comme ça que l'Union des populations du Cameroun s'est engagée dans la lutte armée avec les moyens du bord, hein, avec très peu de moyens, en même temps que le FLN en Algérie. Ça a été, les deux périodes ont à peu près correspondu et ça a duré 10 ans. Et la violence avec laquelle le colonialisme français a réprimé ce mouvement est absolument incroyable. Ça a été l'assassinat systématique de tous les dirigeants, à commencer par Roubanou Niobé. En septembre 58, il a été assassiné. Enfin, on lui a tendu un piège pour qu'il sorte du maquis. Et il a été assassiné en 58. En septembre, le 3 septembre 58 ou le 13 septembre. Après, ça a été Félix Roland Moumier qui a pris la suite. Pareil, qui était donc est devenu le dirigeant à la suite de Oumniobé et qui lui a été empoisonné en Suisse. Il a été piégé par les services secrets français, où un type des services secrets français s'est fait passer pour un journaliste et l'a piégé. On a simulé un appel téléphonique et à l'époque, il fallait se déplacer pour aller répondre à une cabine téléphonique dans l'enceinte du restaurant, hein, bien sûr. Mais il fallait qu'il se déplace de sa place de restaurant. Et donc, pendant ce temps-là, on lui a versé du thallium dans son verre. Et on a su très vite qu'il avait été empoisonné. Il a mis un jour ou deux à mourir. Et il a été décelé que c'était du poison et qu'il avait été empoisonné, etc. Donc le type des services secrets français est mort de sa belle mort. Il y a eu
un semblant
de procès, mais bon, voilà. Et après, il y a eu Ernest Soignier qui était le dernier chef historique. C'est vraiment les piliers, quoi. C'est pour ça que je parle d'eux. Mais il y a eu parallèlement à ça, des villages rasés, des milliers et des milliers de morts au Cameroun. Et ça a été. Et Mesmer a carrément reconnu dans un documentaire qui s'appelle Autopsie d'une indépendance, a carrément reconnu que le napalm avait été utilisé au Cameroun. Donc vraiment, ça a été d'une violence inouïe, quoi. On ne sait pas à ce jour combien de dizaines de milliers de morts il y a eu. Mais il y a eu plusieurs centaines de villages rasés carrément. Et c'est un traumatisme très profond au niveau du peuple camerounais, la violence à laquelle les populations ont dû faire face, au point où aujourd'hui encore, ça hypothèque l'organisation de la résistance. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas avec l'histoire de résistance qu'a eu le Cameroun, pourquoi on accepte. Aujourd'hui, on a un grabataire qui est au pouvoir, qui s'appelle Paul Biya. On a eu 2 présidents au Cameroun. Mahamadou Ahidjo, qui a été installé donc, par les colonialistes français le 1er janvier 60, mais vraiment imposé. Hein, pendant qu'il était, y avait son intronisation, il y avait des manifestations dans le pays pour dire...
On n'en veut pas.
On n'en veut pas. Il ne s'est jamais battu pour l'indépendance. Bien au contraire, il s'est battu contre l'indépendance. Et c'est lui que vous installez au pouvoir. Quoi. Donc les gens ont protesté, etc. Et son premier ministre, Paul Biya, qui est au pouvoir 42 ans après, qui est complètement grabataire, qui a 80, on dit 92, mais on pense qu'il a plus, parce qu'il n'y avait pas d'état civil vraiment à l'époque, donc bon, y a toutes les chances pour qu'il ait vraiment plus, et qui est toujours au pouvoir, et qui mène le pays en coupe réglée, quoi. C'est-à-dire que la moindre manifestation, la moindre contestation, tu risques ta peau, tu risques de passer devant un tribunal militaire. Et vraiment, les gens ont très, 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 très peur. À juste raison. D'abord, de par l'histoire, le trauma qui persiste, qui perdure, mais aussi de par la réalité actuelle qui est qu'on réprime beaucoup, 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 beaucoup. Et tout le monde.
OK.
Moi, j'aimerais savoir, Augusta, tu as commencé quand à militer à l'UPC et quelle différence tu vois à l'époque où tu as commencé à militer jusqu'à maintenant, quelle avancée il y a eu dans la lutte contre l'impérialisme au Cameroun ?
Très sincèrement, bon, moi, quand j'ai commencé à militer à l'époque, donc c'était dans les années, au milieu des années 70, on était les seuls. On était la seule organisation, parce que c'était le parti unique. Et donc, on était la seule organisation camerounaise qui s'opposait au régime néocolonial. Évidemment que ça change la donne. Alors, on était clandestin. On était clandestin. On était une organisation clandestine puisqu'il n'y avait pas le multipartisme. Donc, on faisait tout. Moi, j'étais déjà en diaspora. J'ai vécu au Cameroun jusqu'à au début de l'adolescence. Et après, donc, j'étais ici en diaspora. Mais même en diaspora, les gens avaient très, très peur. Donc, nous, par exemple, on faisait du porte-à-porte pour aller vendre notre journal. On sortait un journal tous les deux mois qui s'appelle La Voix du Cameroun. Et on faisait du porte-à-porte pour aller leur vendre. Et quand ils nous voyaient, il y en a qui sursautaient, ils n'en revenaient pas. Qu'on ose se présenter comme militant de l'UPC. Mais on militait, par exemple, avec des pseudonymes. On avait tous des pseudonymes. On se réunissait tous les mois, etc., au niveau de nos structures. Mais on pouvait se réunir pendant X temps sans connaître la vraie identité des personnes. Et ça, c'était dans un but de sécurité, parce que ça voulait dire que si on t'arrête, tu pouvais pas donner des noms. Évidemment, si on t'arrête et qu'on te torture, tu ne pouvais pas te donner de nom parce que tu ne les avais pas. Donc c'était important de maintenir cette clandestinité. Donc après la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui ils sont débrouillés pour qu'il y ait aujourd'hui il y a quasiment 400 partis théoriquement, hein, et on est le seul parti à ne pas être reconnu officiellement, alors qu'on est le premier.
Oui, donc, historique.
Regardez, cherchez l'erreur, quoi. Donc, ils ont créé des UPC, Union des Populations du Cameroun, donc parti historique, mouvement de libération, qui a porté l'indépendance à bout de bras. Alors, même si on nous a filé une indépendance frelatée, mais quand même, s'il n'y avait pas eu cette lutte, on ne sait même pas si on aurait eu des indépendances, hein, parce que, après tout, alors les gens peuvent dire oui, mais ce n'est pas une vraie indépendance, certes, mais quand même. On se retrouve dans une situation, ils ont créé des UPC, le gouvernement, mais des UPC à sa botte, qui soutiennent le pouvoir néocolonial. Bon, ce qui est une aberration absolue et ce qui n'a jamais été notre ligne. Nous, on a maintenu notre ligne qui est combattre ce régime néocolonial, la rupture avec le néocolonialisme, avec l'impérialisme, etc. Et poursuivre, effectivement, parachever le processus de véritable indépendance, c'est-à-dire de maîtrise de tes richesses, de pouvoir au service des populations qui répondent aux besoins. De redistribuer les richesses, etc. Ce qui ne se fait ni au Cameroun, ni partout ailleurs, pratiquement en Afrique. Malheureusement, on est assis sur des mines d'or, des matières premières considérables, et on est les peuples les plus pauvres du monde, quoi. C'est différent.
Et alors, justement, la réalité, aujourd'hui, le climat social là-bas au Cameroun, tu en as un petit peu parlé là, il est lequel, et comment vous, avec la diaspora qui est en France ou même dans d'autres pays, comment vous arrivez à vous coordonner ?
Nous, en fait, malgré, c'est pour ça que rien. Le seul fait d'exister, c'est déjà quelque
miraculeux,
chose miraculeux.
Ouais, super.
Dans ces conditions-là, avec tous les assassinats, toutes les attaques qu'on a subies, toutes les volontés de nous ostraciser qu'on continue à subir, parce qu'on est un des rares partis à pas être. Et nous, on a fait des, sauf avec l'histoire de la pandémie, etc. Mais jusque-là, on faisait un congrès tous les trois ans. Là, il y a un congrès congrès au mois de novembre. Donc on fait un congrès au mois de novembre et donc régulièrement on tient nos instances, des instances où on décide de nos orientations, on décide de qui va être... quels vont être nos dirigeants, etc. Il n'y a pas beaucoup de partis qui font ça. Hein. Il y a plein de partis où, comme tu es le fondateur, tu es dirigeant à vie et tu décides tout seul. Hein. Donc, on a un vrai fonctionnement démocratique. Bon, avec, bien sûr, des fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas des... Bon, mais ça, comme tout groupe humain.
Toute organisation. Hein.
Ouais. Voilà, toute organisation. Mais on a un fonctionnement qui se veut, où on veut que ce soit les militants qui décident. On a une base militante donc au Cameroun qui est... extrêmement paupérisé. Évidemment, notre base militante, c'est les plus pauvres, hein, c'est les plus démunis, c'est les plus exploités.
C'est ceux qui croquent pas du système.
Voilà, exactement. Mais on a aussi des camarades qui ont des qualifications, mais qui ne sont pas reconnus, évidemment, dans leurs qualifications, qui sont harcelés parce que repérés comme militants de l'UPC et qu'on clochardise, qu'on tente de clochardiser ou qu'on tente d'acheter. Donc, parfois, ça a marché, hein, je ne vais pas mentir. Bah. Et donc, on est dans une situation quand même de très grande difficulté, il faut bien le dire, comme toutes les forces progressistes actuellement au Cameroun, où la répression et la terreur qu'ils font régner, en ce moment, il y a une grosse campagne pour dénoncer la torture, parce que c'est systématiquement la torture, quoi. Quand on t'arrête, et il y a eu plein d'images qui ont circulé dans la dernière période, où on montrait des scènes de torture, mais vraiment terribles, quoi, tu vois, vraiment. Et là, il y a normalement aux Nations Unies, il y a une commission qui s'occupe des questions de torture. Bon, bref, on use de tout ce qui existe, hein, de toutes les structures qui existent, même si efficacité est quand même très limitée.
Hein.
Voilà, reste à prouver. Et je pense qu'on on le prouvera pas parce que c'est pas comme ça qu'on va prouver. C'est par la mobilisation, on le sait bien, mais malheureusement, on use de ça aussi pour dénoncer la torture au Cameroun. Et normalement, il y a des associations de défenseurs des droits humains qui vont passer là pour dénoncer. Donc nous, on est inscrits dans cette campagne-là. Il y a, voilà, pour dire stop, quoi. Il faut que ça s'arrête. Et en fait, le problème de ce type de régime dictatoriaux, ils n'aiment pas qu'on mette le focus sur eux. On parle rarement du Cameroun. Et quand on met le focus sur eux, ça les fait flipper, ça leur fait peur. Et ils se disent, on va être lâchés parce que c'est tellement extrême, c'est tellement caricatural que y compris ceux qui les soutiennent peuvent être éclaboussés et peuvent
la lumière c'est
tout
clair
à fait.
C'est vachement intéressant d'avoir toutes ces infos parce que c'est vrai qu'on en a très peu concernant le Cameroun. C'est très, très peu connu. Et ce que tu viens déjà rien que de nous dire en dit long sur le colonialisme qui continue à perdurer dans une large partie de l'Afrique et notamment au Cameroun. Mmh. Merci vraiment.
Rien,
c'est important.
Non, mais ça fait partie. En fait, je ne sais pas si c'est encore bon pour le Cameroun.
Encore ça. Minutes, ouais.
Parce que moi j'avais une question sur le Cameroun, parce qu'on sait qu'il y a un colon qui est bien connu en France, c'est Vincent Bolloré, qui est très très qui a beaucoup d'actions, enfin qui est très présent au Cameroun. Parce qu'il y a, j'y avais un documentaire quelques années qui disait même en privé, le Cameroun c'est à moi, pour montrer à quel point il a la main mise sur le pays. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez, dans lequel vous luttez directement, l'influence de Vincent Bolloré et des autres colons français à l'UPC?
Oui, bien sûr, ça fait partie des... Mais de toute façon, faut savoir que quand même, il y a 14-15 pays ex-colonies françaises, je dis ex, mais qui sont des néocolonies, hein, en fait, qui sont complètement... Alors, évidemment qu'il y a une concurrence de l'impérialisme. Il y a une mise en concurrence de l'impérialisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique... vous avez vu, vous devez peut-être avoir entendu parler de tous les sommets que les pays font avec l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un pays qui fait un sommet avec tout le continent, quoi. Donc, tu as évidemment la France-Afrique. Là, c'est pas la France-Afrique. Voilà. mais tu as plein d'autres... Tu as la Turquie qui fait son sommet avec l'Afrique. Tu as la Chine qui fait son sommet avec l'Afrique.
La Russie.
Mais tu as d'autres pays d'Europe qui font... Mais tu te dis, mais attends, ça montre la convoitise que représente le continent africain. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 14-15 pays-là, la France continue à avoir une mainmise absolue. C'est-à-dire que l'impérialisme dominant dans tous ces pays, ça reste la France. Déjà de par la monnaie, France CFA.
Le France CFA.
France CFA, qui est une monnaie battue par la, au niveau de la Banque de
Bien
France.
Bien sûr, ça. Mmh.
Donc, et les devises sont, sont en partie détenues toujours à la Banque de France. Donc ça veut dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas décider, bah, tiens, je vais investir dans tel domaine, je vais développer tel truc, je vais industrialiser mon pays, etc. C'est eux qui ont... Bon. Donc ça, c'est essentiel. Et toutes les institutions sont calquées sur, sur la France. Les multinationales françaises sont dominantes. Et il faut savoir qu'il y a trois francs CFA. Il y a le franc CFA d'Afrique centrale, le franc, des fois qu'on voudrait commercer entre nous,
ouais bah.
Il vaut mieux éviter. Hein. Donc, trois francs CFA, Comores toute seule, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Donc, okay. Et qui ne sont pas... voilà, tu ne peux pas dire, tiens, je vais avec mes francs CFA, par exemple, en Afrique de l'Ouest, moi je reviens du Sénégal, je vais au Cameroun. Non, tu ne peux pas les utiliser. Ils ne sont pas convertibles. Donc, et y compris... T'es France CFA, tu veux les con, tu peux pas aller ici dans un une banque et dire bah tenez je veux tu les convertis mais tu les convertis dans le pays parce que on te les change quoi. Mais tu peux pas venir ici dire comme t'as des devises américaines ou t'as du
tu voilà, les changes en euros. Là c'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Ça montre okay. à quel point c'est vraiment. Et donc pour en revenir à Bolloré effectivement il a la main mise. Alors il a été contraint et forcé un peu de vendre les ports.
C'est ça.
Mais il a réinvesti. Maintenant, il est dans la communication, donc il continue à... Et puis, dans les plantations, il a aussi des plantations, etc.
Il a des procès.
Bien sûr, il y a plusieurs procès, mais pareil, il achète les gens. La justice, c'est pas une justice, c'est une justice aux ordres. Au Cameroun, par exemple, elle est complètement à la botte du pouvoir. Donc ici, de temps en temps, il est un peu égratigné, mais il se démerde pour rebondir, pour relancer, pour pas être condamné, etc. Donc c'est compliqué. Et puis, vu le manque de liberté, etc. Mais les gens bougent quand même. Les gens bougent, il y a quand même des dénonciations de plus en plus importantes. Et il y a une tentative de connexion. À l'échelle, je dirais, et à l'échelle continentale africaine, mais aussi au-delà, internationale, contre les intérêts de Bolloré, parce que c'était vraiment trop énorme, trop flagrant. Donc il y a des choses qui se font, il y a le REACT, qui est une association qui, justement, a ciblé les intérêts de Bolloré, qui va là où il y a les actionnaires pour dénoncer les méfaits de Bolloré dans le monde, etc. Donc il y a des choses qui bougent. Qui doivent être systématisés parce que bon, c'est pas assez puissant, mais bon, quand même, il y a des choses qui se font malgré toutes les restrictions de liberté qui parfois limitent un peu les actions.
Et ben justement, on va faire une mini pause musicale et puis on va attaquer cette question de la dynamique unitaire panafricaine.
Thank you. long yem bigranae. Ora wo mono ling moriara.
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel dans l'actualité des luttes et on est avec Epania Augusta, une Camerounaise de l'UPCM, que ce soit clair. Et on va parler un petit peu, justement, bon, on était là pendant ce premier quart d'heure sur le Cameroun et un peu l'histoire de la lutte d'indépendance sur le Cameroun et l'emprise de la France encore sur une grosse, grosse partie du continent africain. Et du coup, cette nécessité de peut-être d'unir les différents pays africains pour créer un rapport de force significatif pour arriver à modifier concrètement la réalité en Afrique. Donc, tu vas nous parler là de la dynamique unitaire panafricaine. Alors là, on tombe des nues et on est super content.
Oui, 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 la dynamique unitaire panafricaine. Alors bon, le panafricanisme n'a pas commencé aujourd'hui, hein, donc je ne vais pas faire l'historique du panafricanisme, mais ça a commencé fin du 19e, du fait de la condition des Noirs dans le monde. Et du coup, effectivement, une condition commune, hein, où qu'ils soient dans le monde, toujours les plus opprimés, les plus méprisés, les plus exploités, etc. Et donc du coup, nous on a toujours été convaincus, en tout cas au niveau de l'UPC, mais aussi beaucoup de. Donc moi je précise, hein, on est UPC Manidem, Union des Populations du Cameroun, Manifeste National pour l'Instauration du Cameroun. C'est pour faire bien la démarcation avec les UPC gouvernementales. Il faut que ce soit très clair. Okay. Voilà, c'est dit. Et alors la dynamique unitaire panafricaine, elle est née de la conviction que l'Afrique ne pourra s'en sortir. D'abord, l'Afrique a subi la balkanisation forcée en 1885. La conférence de Berlin, 1885, au cordeau, avec une règle, ils coupaient comme ça. Donc, tu as une partie de la même communauté que toi qui est dans un pays, une autre partie qui est dans un autre pays, etc. Vous parlez la même langue, vous avez les mêmes habitudes, les mêmes coutumes, les mêmes modes de vie, etc. Et vous vous retrouvez disséminés dans 2, 3, 4 pays. Donc ça, cette balkanisation, on la refuse. On la refuse, même si elle nous a été imposée depuis 60. Et donc, du coup, on la rejette parce que encore aujourd'hui, malgré les décennies qui ont passé, il y a une communauté d'intérêts, de manières d'être, de vivre, etc. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que aujourd'hui, de toute façon, on est convaincu que face à la mondialisation telle qu'elle est, il n'y a que les grands ensembles qui pourront s'en sortir. Et on pense qu'on pourra construire un continent de façon durable, répondant aux intérêts des populations, et notamment des plus démunis, des plus exploités, qu'à travers des constructions plus globales à l'échelle du continent. Et donc, voilà, toutes ces raisons-là, dites de façon un peu rapide, nous, on est convaincus que seule l'unité de l'Afrique, l'unité politique de l'Afrique, la création des États-Unis d'Afrique, parfois on rajoute des États-Unis socialistes d'Afrique, permettra de sortir durablement l'Afrique du marasme dans lequel elle se trouve, bien qu'elle possédant les richesses, pas d'industrie, pas de fabrication, c'est-à-dire toutes les matières premières sont exploitées, sorties de terre et directement transformées ailleurs, emmenées dans les pays impérialistes, dans le centre impérialiste et revendues sous forme de produits manufacturés, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau pharmaceutique, quel que soit le produit que tu prends, il n'y a rien qui soit fabriqué sur place. Donc, aucun bénéfice secondaire pour les peuples, ni en termes d'emploi, ni en termes de transformation, rien. Et en fait, sur le plan, maintenant on parle de l'écologie, de l'environnement, etc. Même sur le plan, c'est une aberration sur le plan écologique, environnemental, etc. Donc vraiment, sous quelque angle qu'on prenne le problème, on se rend compte que c'est une aberration et que Seule la construction des États-Unis d'Afrique permettra véritablement de se sortir de ce bourbier, de cet enserrement dans lequel se retrouve le continent.
Cette misère pour les populations.
Ouais. Exactement. Et donc, du coup, on a créé la dynamique unitaire panafricaine. En 2019, on s'est rendu compte que beaucoup de diasporas africaines se mobilisaient contre leur, entre guillemets, leur dictature respective. Et on était... quelques-uns à aller aux manifestations des uns et des autres. Et il y avait déjà des embryons d'organisations panafricaines. Et on s'est dit, mais ça n'a pas de sens de créer des petites organisations panafricaines, etc. Il faudrait essayer de mutualiser, de fédérer et de se mettre ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait. Il y avait donc plusieurs d'entre nous qui étions dans des organisations panafricaines, mais plus réduites. Et on s'est dit, mais il faut qu'on soit ensemble, quoi. Et puis qu'on puisse riposter ensemble. D'autant que, dans un premier temps, la plupart d'entre nous étions dans des structures, des structures plus réduites, ça je l'ai dit. Et donc, fallait mutualiser, fallait faire bloc. Et bon, c'est ce qu'on a fait. Et de là, on s'est dit qu'on aurait une force de frappe beaucoup plus grande. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'était aussi beaucoup de pays qui étaient dominés par la France, par l'impérialisme français, dans un premier temps. Mmh. Mais nous, on avait l'idée qu'il fallait aller au-delà. On n'était pas juste les francophones, entre guillemets, entre eux, les ex-colonies de Grande-Bretagne entre eux et les ex-colonies portugaises entre eux. Non, c'est tous ensemble. Mmh. Donc, on est dans cette dynamique-là et dans cette perspective. Et on a commencé à se réunir et en 2019, on a décidé de créer la dynamique unitaire panafricaine. Mais dans un premier temps, on n'a pas voulu la déclarer officiellement parce qu'on s'est dit, on va voir si la mayonnaise prend. Ça ne sert à rien de dire on se met ensemble si ça ne prend pas, si finalement on n'y arrive pas, etc. Et on a été déclaré officiellement qu'en 2023.
Ah ouais.
Donc,
on
a pris le temps de faire connaissance. Donc, il y a aujourd'hui 27 organisations. Alors, pas de 27 pays différents, mais de 15 à 18 pays différents. Il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a le Mali, il y a le Burkina, le Burundi, Djibouti, enfin, etc. Et on essaie, voilà, l'idée, c'est le Sénégal. On essaie d'élargir. Il y a aussi des afro-descendants. Et donc, ce qu'on veut, c'est englober le plus largement possible toutes les forces qui se battent contre l'impérialisme. Donc, nous, notre credo, c'est... Alors, il n'y a pas que des organisations politiques, il y a des organisations qui sont plus sur le versant défense des droits humains, des organisations qui sont un peu plus sur le versant culturel, mais quand même avec une dimension politique, sinon elles ne seraient pas dans la dynamique unitaire panafricaine. Mais nous, nos orientations, c'est lutte contre l'impérialisme, contre toute forme de domination impérialiste, etc. Et à construire le souverainisme, mais un souverainisme au service des peuples.
C'est ça, oui, j'allais te poser la question.
Un souverainisme, c'est pas un souverainisme...
Oui, pour mettre un capitalisme africain.
Africain, c'est pas au toit de là que je m'y mette pour perpétuer...
Pour faire la même en couleur.
Non. C'est ça, exactement. C'est pas du tout ça. Justement, on a bien dit que nous, notre objectif, c'était vraiment de rompre... De rompre avec le capitalisme, il faut bien le dire, parce que la nature de l'impérialisme, c'est le capitalisme. La nature économique de l'impérialisme, quelqu'un a dit, n'est-ce pas, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, le nommer, Lénine. Et donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les deux notions, les deux dimensions sont inséparables l'une de l'autre. Donc on s'est réunis et on fait des formations, on organise des mobilisations, on organise des conférences publiques sur des thématiques qu'on choisit ensemble. Par exemple, on décide de mettre le focus sur une situation ou sur un pays parce que ça chauffe, ça bouge, il se passe des choses. Ça peut être... Et on fait aussi des formations pédagogiques, des formations idéologiques et politiques
Pour
les militants, pour consolider le socle commun, pour qu'on ait vraiment... Parce que il y a des gens, évidemment, qui ont de la bouteille, sur le plan de la formation idéologique et politique, et puis il y en a d'autres qui en ont moins, qui sont moins, moins fixés, moins formés, moins plus hésitants sur la nature de la société à construire, etc. Et donc
il faut en causer.
Voilà.
En tous les cas, il faut en parler.
Il faut qu'on en cause. Et nous,
c'est vachement intéressant parce que il y a pas mal de... Souvent, on a une réaction forcément face à l'injustice, face à la violence, face à tout ça. Mais avoir un projet politique qui te guide, c'est une force supplémentaire, évidemment. Et du coup, je trouve que c'est vrai que cette initiative est vachement intéressante parce que ça permet aussi même, et on le verra peut-être dans cette troisième partie d'émission, d'aller même au-delà de l'Afrique et de voir comment peut-être construire un projet mondial, alors là, on y croit, mais socialiste, communiste, peu importe, mais en tous les cas, qui permettent
qui
à chacun de pouvoir...
Qui pas avec le capitalisme et l'exploitation de l'homme par l'homme.
Exactement.
Je voulais dire, par rapport à la dynamique unitaire panafricaine, c'est que, certes, la dynamique unitaire panafricaine, elle est née en diaspora, mais pour nous, c'est évident que le théâtre des opérations, c'est quand même le continent, et les territoires colonisés que sont des afro-descendants, où se trouvent les afro-descendants. Et par conséquent, on est en lien étroit. On a des organisations, certaines de nos organisations sont en diaspora et sur le continent. D'autres pas, d'autres ne sont qu'en diaspora. Mais l'objectif, c'est d'être quand même totalement connecté au continent et de se faire l'écho des luttes du continent, de desserrer l'étau de la répression, du néocolonialisme, de tout ce qui empêche aussi les forces vives d'émerger, de se construire. Parce que, évidemment, si tu empêches les militants, les organisations d'exister, de manifester, de se manifester, évidemment qu'il va rien se passer. Qu'il faut des organisations. C'est pas par génération spontanée. Si, tu peux avoir des gens qui sortent spontanément, mais ça va rien donner s'il y a rien derrière, si politiquement c'est pas structuré, organisé, etc. Donc c'est évident que
On
est connecté avec le continent.
C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est aussi l'absence d'informations sur ce qui peut se passer actuellement en Afrique ou dans plein de pays, de partout, les oppositions, mais révolutionnaires, c'est-à-dire qui veulent changer radicalement l'ordre des choses capitalistes. On n'a pas d'infos, donc on a l'impression c'est immuable, que ça ne changera jamais, que c'est comme ça. Madeleine.
Alors, moi, justement, je voulais te poser une question pour revenir un tout petit peu à cette nécessité de l'information et du projet politique autour de la question de la mémoire, en fait, des luttes du continent africain. C'est-à-dire que, d'après ce que tu décris, il y a peu d'espace, en réalité, dans lesquels cette mémoire des luttes, elle peut être transmise. Et on voit qu'aujourd'hui, au niveau du continent africain, il y a aussi beaucoup de gens qui ont, quelque part, dans tous les cas, cette curiosité vers l'histoire du panafricanisme, vers les luttes de la décolonisation. Et je voulais te demander si tu avais l'impression que cette mémoire, elle avait réussi à être un peu transmise oralement au moins, ou si c'était il y avait de véritables obstacles, et donc si les formations que vous mettez en place, elles avaient aussi pour but de répondre finalement à ce trou de mémoire.
Oui, moi je pense qu'il y a, depuis quelques années, il y a un regain d'intérêt de la jeunesse notamment. Sur cette question de la mémoire des luttes, de ce qui s'est passé, sur mieux connaître son histoire, etc. Nous, on voit plein de jeunes qui viennent dans les conférences, qui participent à ce qu'on organise ou à ce que d'autres organisent et qui vont dans ce sens-là de découvrir la mémoire de son continent, ou de son pays, parfois, si ça concerne qu'un pays. Et vraiment, on sent un regain où c'est très, très jeune. C'est plutôt encourageant, quoi. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un vrai manque. Il y a eu une rupture.
Ouais.
Il y a eu une rupture entre... Moi, je me souviens, dans les années 70-80, jusque peut-être début 90, mais après, t'as l'impression qu'il y a comme une cassure, quoi.
Partout.
C'est ça. Il y a comme une cassure et qu'à nouveau, il y a un regain. Il y a à boire et à manger, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout, sur tout ce qui se fait, mais il y a quand même à nouveau un intérêt, une volonté de connaître, de découvrir, etc.
Pour reprendre pour repartir.
C'est ça, en fait. Alors, il y en a qui découvrent, hein, qui découvrent Kwame Nkrumah, qui découvrent Cheikh Diop, qui découvrent tous les grands penseurs. Oui, Sankara. Des fois, il est un peu plus connu parce que, bon, il a exercé le pouvoir, etc. Bon, Nkrumah aussi, d'ailleurs, mais c'est plus lointain. Sauf que, ou Amilcar Cabral, dont c'est le centenaire. On est dans le centenaire d'Amilcar Cabral. Ce sont des penseurs. Ils ont pensé l'Afrique en perspective. Ils ont pensé de quelle manière construire l'Afrique et sur des bases de lutte de classe, quoi. On est tous noirs, donc on est tous, on se serre la main et ça marche pas.
Et puis on voit bien
qu'il y en a qui ont clairement choisi le camp de l'impérialisme et que voilà, et ils sont noirs aussi, mais et les frères noirs qui continuent à se faire exploiter, écraser et à subir, à travers les jeunes qui traversent la Méditerranée ou qui traversent les déserts et qui viennent crever sur les
plages,
les pavés parisiens aujourd'hui, hein. Tu vois, toutes les, même des mamans hier soir, vite fait j'ai regardé un peu les infos et on montrait des mamans qui venaient d'accoucher qui se retrouvaient à la rue, quoi. Et comme par hasard, plusieurs étaient d'origine africaine.
Bien sûr.
Donc, les personnes qui sont mortes sur les chantiers olympiques. Hein, c'est
bien
tout
sûr,
ça,
pareil. Exactement. Exactement.
Petite pause musicale. Et là, on va attaquer, après cette petite pause, tout ce qui est lutte anti-impérialiste et notamment le sommet qui a eu à Dakar du 24 au 28 octobre dernier. C'est tout frais. L'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel tous les jours de 12h30 à 13h30. On continue avec Epania Augusta. Donc on a parlé dans un premier temps du Cameroun, hein, puisque tu es originaire du Cameroun. Et puis on a parlé de cette dynamique unitaire panafricaine qui vraiment est toute fraîche, hein, qui vient de voir le jour. Et c'est de comment vous vous êtes un peu structuré, etc. Et puis là, on va parler du sommet auquel tu as assisté, donc anti-impérialiste de Dakar, qui s'est tenu du 24 au 28 octobre dernier.
Eh bien oui, donc on s'est rapproché assez vite d'une plateforme anti-impérialiste qui elle est également assez récente.
Récente aussi.
Assez récente. Et qui réunit beaucoup de partis communistes, de partis ouvriers, etc., des quatre coins du monde. Hein. Bon, il y a les Américains, les Anglais, les Québécois,
Les Coréens aussi, c'est ça ?
Oui, alors les camarades de Corée du Sud sont... C'est un peu la cheville ouvrière, d'ailleurs, de la plateforme. C'est un peu eux qui ont initié, forgé cette plateforme et pris les contacts, etc. Et c'est une plateforme qui réunit une bonne trentaine d'organisations, qui a organisé déjà beaucoup de conférences internationales. La première était à Paris. C'était un peu la conférence de fondation de la plateforme anti-impérialiste. Et après, il y a eu le Venezuela. Donc moi, j'étais allé au Venezuela, d'ailleurs. J'avais représenté la dynamique unitaire au Venezuela. Il y a eu... Il y a eu la Corée du Sud, où on a un camarade aussi qui nous représentait la dynamique unitaire. Il y a eu la Grèce, il y a eu, enfin, plus récemment, il y a eu, au moment où l'OTAN se réunissait, il y a eu aussi une conférence là-bas. Enfin, ils ont tenté de faire une conférence, mais je crois que ça a été compliqué de la faire. Mais bon, bref. Donc, il y a des actions comme ça qui sont menées aux quatre coins du monde pour dénoncer l'impérialisme, pour dénoncer l'OTAN. Et... pour essayer de faire converger les forces qui luttent contre l'impérialisme et qui veulent une alternative socialiste, communiste, etc. Donc, du coup, nous, assez vite, par l'intermédiaire de camarades qui font partie de cette plateforme anti-impérialiste, ils connaissaient notre existence et ils nous ont mis en lien. Ils se sont dit que ce serait bien de se rapprocher, ce qui a été effectivement très, très pertinent. Et très vite, l'idée d'organiser une conférence anti-impérialiste en Afrique, l'idée est née. Donc vraiment très vite, le projet, il y a au moins un an qu'on a le projet d'organiser une conférence anti-impérialiste en Afrique, parce que c'est vraiment un peu le cœur, quelque part, c'est le théâtre de
tous pillage.
Les, du pillage impérialiste à ciel ouvert, c'est ça, du pillage international des impérialismes, etc. Donc, du coup, on s'est dit, mais vraiment, oui, on ne peut pas mieux faire. Après, de toute façon, avec l'idée, après cette conférence-là, de faire peut-être des conférences dans des régions, en ciblant plus d'autres régions d'Afrique, mais là, c'était vraiment quelque chose, donner une aura particulière à cette première conférence panafricaine anti-impérialiste. Et donc, la dimension internationale était importante et la dimension africaine. Donc, c'était vraiment la jonction des deux. La conférence s'est tenue. Donc, on a bataillé hein, pour l'organiser. Dans un premier temps, on souhaitait l'organiser en Guinée-Bissau, avec en mettant ça en lien avec le centenaire d'Amilcar Cabral, qui est vraiment un grand penseur, qui a vraiment conceptualisé quoi la lutte, la révolution en Afrique, etc. Et malheureusement, il se trouve que le président actuel de la Guinée-Bissau a fait un coup d'État constitutionnel. Il a, comment dirais-je, suspendu l'Assemblée nationale. Et donc, nous, c'était en lien avec le PAIGC, donc le parti d'Amilcar Cabral. Et il a suspendu l'Assemblée nationale dans laquelle était majoritaire le PAIGC. Il a suspendu le gouvernement dans lequel qui était tenu par le PAIGC. Et donc, du coup, le pays s'est retrouvé dans une situation de flottement. Mais on était quand même prêt à y aller. Sauf que bon, bah, les camarades, ils sont un peu en difficulté, etc. Après, le lien a été un peu difficile à poursuivre avec les camarades avec qui on voulait organiser ça. Et du coup, on avait un plan B. Le plan B, c'était le Sénégal. Parce qu'ils ont quand même une tradition, même s'ils sont évidemment, ils étaient aussi dans le néocolonialisme, il n'y avait pas encore eu le changement récent là, il y a quand même une tradition démocratique un tout petit peu plus grande qu'ailleurs. Avec une tradition des sommets altermondialistes, d'accueillir comme ça des manifestations internationales, etc. Donc on s'est dit, et il n'y avait pas eu les élections, hein, donc on s'est dit, on aura plus de facilité d'organiser au Sénégal qu'au Cameroun, par exemple. C'est un exemple comme ça, au Cameroun.
Au hasard.
Voilà, au hasard. Donc du coup, ben, on s'est attelé à ça et ça s'est fait. Et on était vraiment très, très fiers parce qu'il y a eu une vingtaine d'organisations internationales. Et nous, on avait à peu près une 12-13 organisations africaines parce que tous nos camarades, malheureusement, n'ont pas pu venir. Enfin, les différents représentants des organisations. Parce que ça veut dire qu'il faut négocier au niveau de ton boulot.
Il faut avoir les sous aussi.
C'est ça, j'allais y venir
payer,
tout de suite.
Bah,
bien
oui.
sûr. Et bon, donc c'était un peu compliqué. Donc on a eu quand même une douzaine de camarades de la dynamique unitaire qui sont venus. Les camarades au niveau international, il y avait 19 ou 20 organisations qui sont venues des quatre coins du monde et vraiment ont été très, très, très contents. Donc nous, l'idée, c'était de comment faire la jonction entre les luttes qu'on mène sur le continent et dans les territoires afrodescendants et les luttes que mènent nos camarades dans les pays impérialistes. Donc quel type d'action, quel de... bon, donc je ne vais pas dévoiler forcément. Mais voilà, donc c'était ça l'idée. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment faire converger les efforts à un moment donné sur tel ou tel aspect, parce qu'on pense que là, c'est vraiment important. Et bien sûr, on a réaffirmé de façon très forte notre soutien au peuple palestinien. Et là aussi, il y a eu un rassemblement où il y avait des camarades, des représentants des mouvements de lutte palestiniens à Dakar. Et lors de notre... on voulait faire une manifestation. Finalement, ça n'a pas été possible au dernier moment. Donc, on a fait un rassemblement statique, mais avec des prises de parole où on a, bien sûr, réaffirmé notre soutien au peuple palestinien. Georges Abdallah, demander la libération de Georges Abdallah, évidemment, et réaffirmer notre solidarité au peuple kanak, etc., etc. Et après, bon, bien sûr, toutes les luttes qui se mènent de par le monde... Puisque, mais pour prendre les points vraiment chauds, etc.
Oui, puis en plus, ils peuvent nous parler, nous, ici, en France, c'est
ça,
évidemment.
C'est ça. Mais aussi dénoncer ce qui se passe en RDC, qui est un scandale absolument énorme à tout point de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en RDC, on est à 30 millions de morts, personne n'en parle, quoi. Mais en l'espace de nombreuses années. Mais on est... enfin, c'est incroyable. Autant de morts. Mais parce que la RDC... Je pense qu'on peut dire que c'est le poumon de l'Afrique. C'est un des... Après l'Amazonie, c'est le deuxième pays qui contient, enfin, en termes d'environnement, etc. C'est...
Et les mines.
Et sur le... Oui, alors... Oui,
non, mais l'extractivisme aussi, oui.
Voilà, et il y a ça. Et ils ont... C'est l'une des régions où il y a toutes les minerais stratégiques, rares, etc. Donc, le Congo, la RDC est Et sous les fourches caudines de tous les impérialismes qui financent des groupes et qui massacrent les populations dans telle région. Et c'est terrible, quoi. C'est terrible ce qui se passe en RDC. Et personne, quasiment, n'en parle. Avec des viols de milliers de femmes, etc.
On a fait une émission dernièrement aussi là-dessus par rapport au fait, si tu veux, du développement du numérique et de la nécessité des terres rares pour pouvoir nourrir cette révolution industrielle, technologique à laquelle nous on est évidemment très 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 critique, et du coup que ça nécessite aussi l'exploitation d'enfants dans des mines de minerais rares et ça on le sait pas du tout, mais ça commence un petit peu ça commence un petit peu à émerger en disant le prix à payer pour toutes ces technologies c'est le sang des enfants, le sang des populations locales.
Tout à fait donc mais on est très content d'avoir pu c'était un vrai challenge quoi de réussir à faire cette conférence internationale anti-impérialiste, c'était et on était content d'avoir réussi. Et après il y a nos camarades sénégalais qui se battent aussi pour consolider le pouvoir et la place des forces de gauche au Sénégal. Donc ça c'est important aussi parce que finalement quand on a imaginé le plan B, c'était encore le régime de Macky Sall, donc vraiment l'incarnation du néocolonialisme, et entre temps il y a eu les élections et ça a basculé. Malgré tout, tout n'est pas rose, mais il y a quand même un processus qui est enclenché et dans lequel nos camarades au Sénégal sont impliqués, dans lequel ils sont impliqués. Et ce qu'on espère, c'est que les élections législatives, là, ils sont en campagne, là, vont leur donner la majorité et qu'ils vont pouvoir asseoir leur pouvoir vraiment à gauche et pour mieux répondre aux aspirations des populations, quoi. Et pareil, alors, après, il y a les pays de l'AES. Donc, AES, ce sont les trois pays Mali, Burkina et Niger qui ont créé une confédération et qui sont ensemble et qui ont demandé conjointement à chasser les bases militaires françaises, qui ont remis en cause un certain nombre d'accords économiques, qui sont en train de remettre plein de choses en cause par rapport à leur domination. Donc ça, c'est extrêmement positif. Après, il faut le dire, nous, on le dit en tout cas, il y a des points plus questionnants qui ont à voir avec le manque d'appui sur les forces progressistes et révolutionnaires de la part des pouvoirs des militaires.
Ouais.
Donc ça, c'est un problème parce que du coup, il y a beaucoup de forces un peu critiques qui, à tel ou tel moment, mais ce qui est normal dans un processus de
transformation,
transformation et je dirais quelque part de révolution, que voilà, il y ait des forces qui puissent dire bah non, là ça colle pas, là ça va pas, ou ça va pas assez loin, etc. C'est très compliqué, c'est très difficile, et beaucoup de militants qui pourtant ont été partie prenante de ces processus aujourd'hui se retrouvent en prison, se retrouvent indexés comme étant parfois des. Un peu des collaborateurs ou des proches de l'impérialisme, etc., ce qui n'est absolument pas le cas. Donc ça, c'est problématique et il faut pouvoir... Donc nous, on apporte un soutien critique. C'est-à-dire que tout ce qui est bien, on dit c'est bien. Ça, c'est incontournable.
Et ça
ne
vous empêche pas aussi de...
C'est incontournable. Ouais. C'est-à-dire chasser les bases militaires étrangères, françaises, américaines, etc., c'est incontournable. Mmh. Il faut le faire. Mmh. Tu ne peux pas parler de souveraineté si tu ne fais pas... Mmh. C'est le béaba, quoi. Mmh. Après, prendre possession de tes richesses, c'est le béaba aussi. Et après, voilà.
Pour en faire quoi ?
Et voilà.
Et c'est
après,
là
c'est
que,
quand même
voilà,
toujours...
On peut discuter.
Pour en faire quoi ? C'est toujours l'éternelle question, l'éternel débat. Mmh. Et permettre à toutes les forces progressistes, quoi, de participer au processus, parce que tôt ou tard, sinon ça peut mal finir, quoi. Mmh. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais nous, on continue à dire qu'on soutient le processus et notamment tous les actes posés qui vont dans le bon sens, dans le sens de la souveraineté. Ça, vraiment, mais en même temps, on nous empêchera pas de dire aussi que là,
il y a des trucs qui vont pas du tout.
Il y a des choses qui posent problème et qui nous questionnent et qui à terme peuvent compromettre le processus. Donc c'est ça, c'est là où c'est grave, parce que nous on veut pas qu'il y ait marche arrière. Le problème c'est que si tu te coupes de toutes les forces révolutionnaires, de toutes les forces qu'ont porté les insurrections, etc., à un moment donné c'est questionnant et ça peut être problématique.
Carrément. Bon, en tous les cas, on est vraiment super contents. Hein. On est passé du Cameroun à la dynamique unitaire panafricaine et pour l'élargir sur l'ensemble, libérer le monde de l'impérialisme et du capitalisme. Ouais. Écoute, c'est super. En tous les cas, merci Epinia Augusta d'être venue dans nos studios. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois.
J'espère.
Non, mais c'est clair, parce que là, on a vraiment dressé à grands traits hein, toutes ces questions-là et ça demande à chaque fois d'affiner et puis on se rend compte que c'est un processus qui est tout nouveau hein, qui vient de quasiment de voilà qui émerge et donc voir un petit peu comment après il se dynamise, il se structure et il est force de proposition en tous les cas vous êtes
de propositions d'action etc.
Exactement.
Parce que
et puis voir comment aussi on peut participer d'abord toute cette information nécessaire à cette prise de conscience de ce qu'est l'impérialisme, le colonialisme, etc. Et puis de faire ensemble construire ensemble un monde nouveau.
La dynamique, la dimension communication est essentielle évidemment, vraiment. Alors moi je voulais quand même dire un petit mot sur la musique qui est passée tout au long de l'émission. C'est Yves Beng qui a écrit les paroles, les musiques, etc., qui est un patriote camerounais avec qui on a cheminé longuement et qui est un artiste qui a écrit beaucoup de musique et de textes révolutionnaires et qui vont dans le sens du changement, etc. Donc je voulais quand même
que
c'est Jalal Ilong, c'est lui qui avait initié ce groupe dans les années 80-90 et qui a fait de très très beaux morceaux donc que vous pouvez retrouver sur YouTube.
Et ouais.
Et voilà.
C'est là qu'on l'a trouvé nous-mêmes. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios.
Merci.
Et puis bonne journée à vous tous.
Merci Lucas de m'avoir
avec grand plaisir, tu vois.
Ouais. Super. carrément merci à toi. Prochain pour une nouvelle émission d'actualité des luttes.
Voilà, on le respecte.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.